j'obéis pour le micro. Merci beaucoup, Suzanne, de cette introduction. J'espère que moi, je vais être à la hauteur de l'introduction. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement l'ARCE de me donner l'occasion d'être là ce soir pour présenter ce livre devant vous et puis le lieu qui nous accueille. Alors, c'est un exercice que j'ai déjà eu l'occasion de faire, mais dans d'autres circonstances. Ce livre, Suzanne l'a dit, il est tiré d'une thèse. Je vais essayer de trouver un ton qui soit à mi-chemin entre l'académisme de l'exercice de thèse et puis, pour reprendre les termes du journaliste qui m'a interviewé ce matin sur Divergence, et que je remercie aussi, ne pas non plus vulgariser au sens où on réduirait la complexité. Alors, j'espère que je vais y arriver et j'espère que vos questions ensuite permettront de préciser les choses. Alors, pour donner le ton de cette intervention, je pourrais dire que ce livre, finalement, est axé sur une période, analyse une période très, très circonscrite, celle de la sortie de l'apartheid, et choisit de le faire au travers des formes de pensée ouvrière. Peut-être un certain d'entre vous ont vu Invictus, le film de Clint Eastwood, qui, au travers de la Coupe du Monde de rugby, nous donne à voir l'euphorie, l'enthousiasme, etc., de cette période. Je dirais que mon livre propose une version académique de la chose et forcément, et aussi peut-être complexifie ce que Clint Eastwood a mis en scène. Et l'autre particularité, c'est que si c'est Nelson Mandela qui est au cœur de ce qui est montré dans le film, plus l'artifice, enfin, l'usage du rugby, moi je choisis au contraire là de vous proposer une idée de l'Afrique du Sud, pas par le bas, diraient les politistes, par les ouvriers, par les gens. Qu'est-ce que les gens, et en l'occurrence les ouvriers sud-africains, pensent de cette période particulière qui suit la disparition de l'apartheid, 94, les élections multiraciales et démocratiques, qui font suite à une disparition précédente de la politique d'apartheid, qui date déjà de plusieurs années quand Nelson Mandela arrive au pouvoir. Donc, je voudrais procéder en plusieurs temps. D'abord, peut-être vous expliquer pourquoi c'est pertinent. Suzanne en a avancé plusieurs éléments. Pourquoi c'est pertinent, à mes yeux, de travailler sur l'usine et les ouvriers pour donner à comprendre un petit bout de ce qu'a été ce processus complexe, cette invention complexe de la sortie de l'apartheid, qui est effectivement, je le soutiens, une rupture. Ça ne doit pas se lire en termes de transition, c'est une rupture, mais qui est aussi une invention politique, dont je vais essayer de vous montrer qu'elle est soutenue dans des termes propres par les gens, avec une subjectivité particulière, pas collée au discours de l'État, mais qu'ils disposent eux-mêmes leur façon d'adhérer à ce projet. Et puis aussi de vous montrer, quand Suzanne disait les logiques d'acteurs, comment se déploient des formes de pensée ouvrière, quelles sont, dans mes termes, les catégories de pensée des gens pour dire ce moment spécifique, l'intérêt de comparer deux usines, et puis, aussi avancer quelques pions sur comment on articule l'analyse de la période politique et l'analyse de ce que proposent les gens. Alors, donc, pour commencer, pourquoi avoir choisi de travailler sur l'usine et sur les ouvriers pour saisir ce moment particulier de la sortie de l'apartheid? Il y a plusieurs raisons à cela. Toute une partie de la littérature militante et intellectuelle qui parlait de l'Afrique du Sud considérait que l'apartheid disparaîtrait en même temps que le capitalisme. C'était ce qu'on appelait le débat entre apartheid et capitalisme. Certains tenaient que l'apartheid était avant tout une façon de fournir aux compagnies minières, aux entreprises, une main-d'œuvre bon marché, que donc en réalité il était fonctionnel à l'apartheid et que son enjeu c'était cela. D'autres, au contraire, disaient qu'il bloquait le déploiement, il bloquait un bon déploiement économique. Et puis l'apartheid disparaît en 90, sans guerre civile, sans effondrement de l'État, et du fait même du parti qui l'a porté pendant près de 50 ans, le National Party. Donc on a déjà là une fin de politique qui est tout à fait inédite, qui surprend. qui à laquelle les mouvements militants et notamment ouvriers ont bien entendu participé, mais qui n'est pas strictement de leur fait. Et il y a disparition de cette politique et il n'y a pas pour autant disparition de l'apartheid, du capitalisme. Du capitalisme. Et donc c'est la proposition qui laissait entendre que les ouvriers seraient les principaux artisans et les principaux bénéficiaires de la fin de l'apartheid, parce que ce serait aussi la fin du capitalisme, est une proposition qui s'avère fausse, et pour autant quelque chose change fondamentalement dans ce pays. Alors, le livre, du coup, ça devenait intéressant d'aller regarder du côté des usines et du côté des ouvriers ce qu'ils avaient déployé rétrospectivement sur ce qu'était l'apartheid à leurs yeux, et puis aussi comment qualitativement se transformaient les usines avec cette fin d'une politique. Alors, rappelons-le, l'apartheid, c'est littéralement le développement séparé. C'est l'idée que dans ce pays qui est multiracial, où on instaure très systématiquement des groupes d'appartenance raciale blancs, noirs, métis, indiens, ces groupes de population définis par la race doivent vivre strictement séparément, se voient soumis à des registres de lois différents. Plus on a la peau foncée en Afrique du Sud, moins on a de droits. Et c'est une ségrégation non seulement spatiale qui s'instaure. Il faut bien comprendre qu'il faut imaginer qu'on reconfigure Paris avec ses différents arrondissements, dont on sait que le 13e arrondissement, il y a des Asiatiques, qu'à Barbès, il y a une population africaine. Mais globalement, Paris s'est mélangé. L'apartheid, c'est comme si on reconfigurait les 20 arrondissements en disant on va mettre les blancs dans le premier, les jaunes dans le second, et l'apartheid se donne la politique d'apartheid se donne les moyens de faire cela. Donc ségrégation spatiale stricte, y compris en transformant des quartiers entiers, ségrégation personnelle, interdiction radicale de relations sexuelles et même amicale le moins possible entre des personnes de différentes couleurs, et enfin ségrégation culturelle, considérant que des gens de différentes couleurs ne sont censés avoir accès qu'à un certain niveau d'éducation et pas plus, et que en particulier les postes qualifiés doivent être strictement réservés aux personnes blanches. Tout ça sur un contexte où, rappelons-le aussi, en réalité le ratio de population, c'est quand même 80 à 90% de la population non blanche pour 10% de blancs. D'accord. Donc c'est cette politique-là qui disparaît et qui et la question que moi je me suis posée, c'est qu'est-ce que ça change qualitativement à l'usine? Qu'est-ce que c'était l'apartheid à l'usine? Comment c'était perçu par les gens? Et l'usine est un lieu particulièrement intéressant, les lieux de travail, parce que dans cet espace national profondément ségrégué, c'était un des lieux où, de toute façon, c'est la grande difficulté pour l'apartheid, il faut bien que blanc et noir se fréquentent, puisque oui, il y a besoin de cette main-d'œuvre noire, j'emploie toujours ces termes entre guillemets pour simplifier, mais vous entendez que mon propos, lui, n'est pas racialiste. On a besoin de cette main-d'œuvre, et on est bien obligé de se côtoyer dans un pays qui, idéalement, voudrait que ces groupes raciaux vivent strictement séparés. Donc le débat entre apartheid et capitalisme, c'est aussi la question de savoir si, en réalité, c'est pour mieux pouvoir asservir une main-d'œuvre qu'on fait ça, ou bien pas. Alors moi, la thèse que je défends dans le livre, la première thèse que je défends dans le livre, c'est qu'il faut séparer ces deux notions. C'est-à-dire qu'on ne comprend la fin de l'apartheid que si on disjoint la notion d'apartheid d'un côté, que moi je qualifie de mode historique de la politique racialiste. C'est une pensée profondément politique, non seulement raciste, mais racialiste. Tout est pensé autour de la race. Et par ailleurs, il y a un capitalisme que j'appelle de ségrégation qui se déploie dans le pays. Et ce sont deux phénomènes concomitants, avec des adaptations. La phrase que citait Suzanne tout à l'heure à propos de l'idée que, bien sûr, un gouvernement prend des décisions économiques, mais pas strictement dictées par l'économie. Donc il y a une tentative systématique de maintenir l'économie à flot, tout en conservant ce déséquilibre radical entre blanc et noir, y compris parfois contre-productive. Puisque à certains moments, ce serait plus productif d'avoir un modèle fordiste où on ait plus de consommateurs sur le marché. Or, forcément, quand vous bloquez tous les ouvriers non qualifiés au plus bas niveau, ça les fait pas acheter les voitures qu'ils produisent. Et réciproquement, je montre que les usines ont parfois détourné, se sont adaptées au modèle d'apartheid, parfois en le contournant, en le détournant, parfois en tirant profit, effectivement, parce que la concurrence entre des main-d'œuvre plus ou moins réprimées par le droit permettait de faire baisser les coûts, mais pas uniquement. D'accord. Donc l'idée, c'est la première idée, en regardant ce qui se passe à l'usine, c'est de désencastrer apartheid et capitalisme et de dire en réalité, il y a une politique d'apartheid tenue par l'État. Le principe de l'apartheid, il est d'abord politique et d'abord racialiste. Il s'agit d'entretenir et d'instaurer le plus longtemps possible cette division raciale entre les gens. En même temps, bien sûr, il y a une économie. Le capitalisme de ségrégation, puisque du coup, il est tributaire de cette configuration particulière du marché du travail et du droit du travail, à certains moments en bénéficie et à d'autres en est victime. Mais on ne peut pas dire que l'apartheid a pour vocation de faire marcher le capitalisme. C'est d'abord une décision politique et la particularité de la fin de l'apartheid en 1990, c'est la décision interne au même régime qu'il a mis en place de le faire cesser et d'entrer dans une négociation entre l'ANC et le National Party, donc le parti national au pouvoir depuis 1948 qui prônait cette politique, pour que émerge une autre idée du pays et de la construire ensemble. Donc là où on a été ennemis et séparés, on se met à travailler ensemble. Donc l'usine, au regard de tout ça, c'est un des lieux intéressants pour saisir la subjectivité rétrospective des ouvriers sur ce qu'a été l'apartheid, et puis pour saisir ce que c'est que l'après-apartheid, puisque c'est un des lieux où va être éprouvé que la politique, en tout cas légalement, a disparu, mais c'est pas parce que la politique disparaît que les formes de pensée immédiatement s'adaptent, qu'elles ne sont plus immédiatement dans ce modèle racialiste. Donc comment pensent les gens ? Qu'est-ce que les gens disent à ce moment-là ? Comment ils saisissent la nouveauté de la chose ? Et c'est d'autant plus intéressant de le faire que on se pose la question, là où toute la littérature de la période d'apartheid disait la classe ouvrière, non seulement c'est la lutte des classes, c'est la lutte des races, c'est... Eh bien, finalement, on est fondé à interroger cette catégorie de classe ouvrière, cette notion, et à se demander si c'est effectivement comme ça que les gens, les ouvriers eux-mêmes, penser la situation. D'où le titre du livre qui propose d'interroger la figure ouvrière en faisant l'hypothèse que peut-être ce n'est pas strictement dans une dimension de lutte des classes et de classes ouvrières que les choses se sont disposées, mais que pour autant les gens ont pensé quelque chose, pensent encore quelque chose et qu'il s'agit de le saisir et de proposer de le saisir dans leur catégorie à eux. Alors, introduction un petit peu longue qui m'a permis de parler de la première partie. J'en viens donc dans laquelle finalement les grandes idées, c'est de dire il faut séparer l'analyse de la politique et l'analyse de l'économie si on veut comprendre quel est le processus particulier de l'Afrique du Sud. Si on mélange les deux, on ne comprend pas ce qui a lieu. Du coup, ça nous permet de comprendre la fin de séquence de l'apartheid comme une fin politique qui ne présage pas de ce qui va se passer économiquement. Ce point est important, je pense, pour notre débat éventuel tout à l'heure, parce que en ce moment, souvent, on entend les journalistes dire à raison « le capitalisme néolibéral est toujours là, donc ça marche pas en Afrique du Sud ». Pour moi, c'est pas le point. Il y a une séquence politique qui se clôt, une nouvelle qui s'ouvre, qualitativement différente, je vais maintenant vous le montrer. En même temps, l'économie continue à s'adapter, à évoluer, et il ne faut peut-être pas la prendre comme unique critère d'analyse si on veut comprendre ce qui se passe. Alors, sur ces fonds. Et puis, il y a le fondement problématique sur lequel je m'étends pas parce que je pense que ce serait, mais je peux y revenir tout à l'heure, de suggérer que peut-être ce paradigme de classe ouvrière, il faut peut-être savoir s'en défaire ou en tout cas l'interroger si on veut saisir quelles sont les formes de pensée des gens pour eux dire ce qu'a été l'apartheid et ce qu'est la période de l'après-apartheid. Alors, quelques exemples de ce que ça donne. Donc, à partir de là, cette thèse que j'ai déployée, je la déploie dans la première partie du livre, sur la disjonction entre apartheid et capitalisme et sur la rupture et l'invention de la suite, au travers de ce paradigme de la négociation, comme le rappelait Suzanne, c'est-à-dire l'idée qu'on entre dans une négociation de ce que va être le nouveau pays, le nouvel État. Du point de vue des usines, donc moi j'ai mené deux enquêtes parallèles dans une période qui appartient à cette séquence que j'appelle de la reconstruction et de la négociation, les années 94 à 99, ça s'arrête pour moi en 2000. Et j'ai mené deux enquêtes, donc l'une à Durban en 97, dans une usine où essentiellement il y avait des ouvriers noirs, indiens et blancs, et puis dans une usine à Port Elizabeth, c'est-à-dire on est sur l'océan Indien un peu plus à l'ouest vers la ville du Cap et le Cap de Bonne-Espérance, et là dans une usine où il y a des indiens, où il y avait des ouvriers métis et noirs et puis blancs aussi. dans deux usines dont la comparaison est intéressante, puisque pour le dire un petit peu in a nutshell, comme diraient les Anglais, dans un mouchoir de poche, dans une coquille de noix, la première usine est une usine qui a été fondée par des Britanniques, très libéraux dès l'abord, beaucoup dans le contournement de l'apartheid que j'évoquais tout à l'heure, qui ont assez tôt, dès les années 70, utilisé au maximum la souplesse ouverte sur l'assouplissement de l'apartheid, alors que à Port Elizabeth, on a un patron qui m'explique qu'il a construit son usine sur le modèle d'apartheid, les noirs d'un côté, les métis de l'autre. Il dit on a fait un truc d'apartheid, on a essayé de les monter au maximum les uns contre les autres, et qui dit, et puis en 94 Mandela arrive au pouvoir, et là il a cette phrase formidable, il dit la politique du pays se répand dans l'usine et l'apartheid ne peut plus fonctionner. Je ne peux plus faire comme ça. Ça ne marche plus, je ne peux plus, il faut que je m'adapte. Donc, je saisis ces usines donc dans une période de transformation, et je suis allée, donc j'ai fait une étude poussée de leur histoire, que je vous ai résumée là. J'ai rencontré non seulement des ouvriers, mais des contremaîtres, des patrons, etc. J'ai beaucoup aussi saisi le contexte et les deux conjonctures du moment dans ces deux villes, et puis à deux années d'écart, mais avec une grande volatilité du contexte en Afrique du Sud, ça bouge très très vite. Et je me suis penchée sur ce que les ouvriers donnaient à voir de ce qui caractérisait à leurs yeux la fin de l'apartheid dans ces deux usines. Alors je ne vais pas donner tous les résultats, mais je vais en donner quelques-uns pour illustrer cela. Alors une des grandes choses qui transparaît dans les enquêtes, en particulier dans la première usine à laquelle j'ai donné le nom de Star, bien sûr c'est un nom d'emprunt, ce sont deux usines d'équipement automobile, hein, c'est-à-dire la première fait des intérieurs de portes, des boîtes de vitesse, la seconde des pièces aluminium en particulier pour les pièces à air conditionné, l'air conditionné dans les voitures. Donc dans la première usine en particulier, ce qui transparaît, c'est ce que j'ai appelé l'unanimisme productiviste des ouvriers sud-africains. C'est-à-dire que ce qui est très frappant dans leurs propos, c'est que tous déclarent que, quant à la période contemporaine, ils considèrent que, en tant qu'ouvriers, ils ont pour tâche de construire la nouvelle Afrique du Sud, que travailler à l'usine, c'est participer à la reconstruction du pays, que produire, c'est cela, et que ils sont, et de ce point de vue, ils adhèrent à la politique de reconstruction et de développement proposée par l'ANC, mais vous voyez qu'ils s'approprient complètement cette idée. Et en même temps, c'est leur façon de promouvoir le pays. Donc c'est pour cela que j'ai proposé de dire que l'usine apparaît, ce que tu soulignais tout à l'heure, comme l'un des lieux du sentiment national à cette période. C'est-à-dire que c'est un des endroits où les ouvriers que j'ai rencontrés, en tout cas, se forgent une idée du pays et adhèrent à cette vision du pays et disent, en tant qu'ouvriers, on construit le pays. Alors, ils disent aussi d'autres choses sur la discrimination positive. Volontairement, je le laisse de côté tout à l'heure. Je pense que ça sortira peut-être dans le débat. Je ne vais pas être trop longue au début. Et donc, j'ai appelé ça un unanimisme productiviste parce que, chose très importante, c'est à partir de leurs mots à eux que je sors cette catégorie. Et là où il y a unanimité, c'est que les ouvriers indiens comme blancs, comme noirs, donc là, zoulous, que j'interviewe, tiennent le même discours, qui n'est pas un discours managérial, hein, et qui n'est pas non plus le discours syndical, ni strictement ce que dit l'État. Mais c'est une vision partagée qui se déploie à l'usine et qui tient une thèse à propos du pays et à propos de ce que c'est qu'être ouvrier dans cette période-là. Et ce qui est intéressant aussi au regard de ce que j'ai essayé de brosser rapidement en termes problématiques tout à l'heure, c'est que vous voyez que ça ne se donne pas dans un antagonisme de classe, ça ne se donne pas non plus comme quelque chose qui est ayant particulièrement trait avec leur statut social ou leur groupe d'appartenance raciale ou autre. C'est pas dans ces termes-là qu'ils le donnent. C'est le mot ouvrier qui porte l'idée qu'il y a un pays à construire, et qu'en tant qu'ouvrier, on construit ce pays. Et là-dessus, il y a une unanimité qui fait dire que l'usine, c'est aussi un des lieux où, via lequel on produit le pays à venir. Alors, dans l'autre usine, là aussi, quelques exemples de ce que produit le type d'enquête, il y a quelque chose qui est intéressant aussi sur qu'est-ce que c'était que l'apartheid dans cette usine, lieu où blanc et noir se côtoyaient, donc où a priori la ségrégation spatiale était réduite, au moins de facto les gens étaient proches, même s'il y avait des vestiaires séparés pour les noirs et pour les blancs, des toilettes séparées, même si la réservation des postes qualifiés aux blancs faisait qu'on n'était pas du tout égaux à l'usine, mais en tout cas, il y avait une proximité quotidienne et une nécessité de travailler ensemble. Alors, quand j'interroge les ouvriers, donc là, ce sont principalement des ouvriers métis et noirs, cette fois-ci plutôt parlant le Xhosa, eh bien, ils qualifient, quand on les interroge sur ce qu'a été la période d'apartheid à l'usine, leur réponse déploie tous l'idée que c'était un moment où on ne pouvait pas parler à l'usine et que ce qui fait rupture, ce qui change radicalement à l'usine, ce n'est pas dans termes objectifs qu'ils le donnent, c'est bien en termes subjectifs, c'est que désormais on communique à l'usine. Alors communiquer c'est quoi? Ça peut sembler extrêmement publicitaire comme propos, c'est pas du tout le point. Sous ce mot de communiquer qui revient de manière récurrente dans les entretiens que je mène avec eux et que j'avais déjà dépisté dans la première enquête, mais sans comprendre ce que ça pouvait vouloir dire, se déploie l'idée que ce qui fait la nouveauté, ce qui fait la rupture avec l'apartheid, c'est que il y avait sous l'apartheid, dans cette usine, ce que j'ai appelé un apartheid de la parole, c'est-à-dire que pour réaffirmer la discrimination et la supériorité blanche, non pas l'usine était silencieuse, mais on ne pouvait pas prendre statut d'interlocuteur quand on n'était pas blanc. C'est-à-dire, on pouvait éventuellement se faire insulter verbalement, on pouvait obéir, on pouvait recevoir des ordres, mais il n'était pas question de discuter le protocole du travail, d'intervenir pour suggérer que la machine allait tomber en panne ou autre. On n'avait pas droit à la parole, on n'était pas un interlocuteur. La réitération de la discrimination raciale se donnait à voir dans cette impossibilité de prendre statut d'interlocuteur. Et ce que le mot « communiquer » vient traduire, c'est l'idée que le grand changement qualitatif à l'usine dans la période qui suit l'apartheid, dans la période de restauration d'une démocratie, c'est que désormais, on peut communiquer, non seulement on peut se parler, mais on va être reconnu comme interlocuteur, et ce, quelle que soit sa couleur de peau. Et donc, communiquer déploie la nouvelle subjectivité des rapports de travail à l'usine. C'est une catégorie de pensée qui a aussi une place hors de l'usine. C'est-à-dire que les gens disent aussi, maintenant les hommes politiques communiquent. Pas au sens, ils font leur pub, mais là aussi, c'est la réarticulation de cette interlocution qui était impossible entre Parti National et ANC. Donc, c'est vraiment un mot pour saisir le contemporain et le déployer. Et on retrouve dans l'idée des ouvriers de cette seconde usine que, titre d'un des articles dont tu parlais tout à l'heure, que communiquer, ça va être mis au service d'une meilleure production, parce que là aussi, l'idée, c'est que si désormais on peut communiquer, on peut mieux produire, toute une série de propos sur une meilleure facilité à travailler ensemble et à travailler mieux, et mieux produire, c'est construire l'Afrique du Sud. Donc on retrouve là aussi, 2 ans plus tard et en unité, cette idée de l'unanimisme productiviste déployé avec plus de fragilité, dans les subjectivités et puis dans des tensions qui se créent en vis-à-vis avec le patron local. Mais là aussi, ce qui qualitativement vient marquer le changement profond à l'usine permet aussi aux ouvriers de se dire partie prenante de la reconstruction du pays. Alors, il y a d'autres catégories d'autres formes de pensée et d'autres thèses des ouvriers qui émergent des enquêtes. Je ne vais pas toutes les citer puisque j'ai l'espoir que peut-être je vais vous donner envie de lire le livre et donc je ne vais pas tout vous raconter. Et puis je pourrais reprendre aussi là-dessus dans la discussion. Ce que j'espère vous avoir montré, c'est que le fait de partir des mots des gens et de leur forme de pensée permet de saisir finalement qu'est-ce qui pour eux-mêmes fait le changement. Et vous aurez noté que quand on les interroge sur ce qui a changé, c'est pas la question des salaires strictement qui émerge, ou c'est pas des conditions strictement objectives. C'est là aussi une dimension de la pensée politique telle qu'elle se déploie à leurs yeux qui est proposée. C'est-à-dire, on peut aussi dire que l'unanimisme productiviste, c'est une prescription sur le possible. Qu'est-ce qu'on espère pour le pays en tant qu'ouvrier et de l'intérieur de l'usine? C'est la capacité à ce qu'il se déploie et à ce qu'on le construise ensemble. Donc, cette enquête auprès des ouvriers, elle est le pendant de l'enquête que j'ai menée sur l'analyse de la politique de l'apartheid, là, en tant que politique. Il y a, d'une part, dans le livre, la proposition sur ce qu'est l'apartheid en tant que politique et sa déconnexion nécessaire avec le capitalisme pour le comprendre. Et puis, de l'autre, il y a les formes de pensée, y compris politiques ou militantes ou quasi-militantes des ouvriers. Et là, il faut mener l'enquête auprès des gens et s'attacher à leur propre catégorie de pensée pour comprendre comment elle se déploie. Et on a confirmation, effectivement, que si parfois ils tiennent des propos antagoniques, parfois c'est pas la paix à l'usine, pas tout le temps, mais si on veut saisir quelle est la caractéristique de cette pensée ouvrière en Afrique du Sud, il ne faut pas rester collé à des catégories a priori telles que lutte des classes ou classe ouvrière, ni vouloir d'abord les déduire de conditions socio-économiques ou sociologiques, mais il faut s'attacher à comprendre ce que les gens mettent sous les mots, et effectivement, on en découvre un certain nombre, c'est ce que j'appelle la langue naturelle des gens, on découvre un certain nombre de lexiques qui nous permettent, sur un certain nombre de points, d'allumer des petites lumières et de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que ce moment particulier de l'Afrique du Sud. Alors c'est pour ça que je disais c'est la version académique d'Invictus, parce qu'effectivement c'est une période où dans ces 4-5 ans immédiatement après l'élection de Mandela, on voit l'enthousiasme des gens, on voit leur adhésion au projet sud-africain. Pour autant, c'est ce que je dis sur la quatrième de couverture, c'est pas un miracle. C'est-à-dire, c'est le fruit d'une construction, c'est le fruit d'un travail de négociation. C'est très construit comme miracle. Hein. C'est une invention politique aussi sur d'autres éléments de l'État dont j'ai pas parlé, comme la commission Vérité et Réconciliation. C'est une séquence particulière, et cette séquence, aujourd'hui, elle est close. Elle est définitivement close, et elle est définitivement close, si on en doutait encore, par les attaques xénophobes de mai 2008 qui ont manifesté, à mes yeux, beaucoup de choses, mais notamment que s'il y avait eu un sentiment national collectif qui pouvait englober, qui pouvait se donner dans un élan pour le pays, désormais, le sentiment national tel qu'il semble se déployer semble être sud-africain ou ne pas être sud-africain. C'est-à-dire les sud-africains, les nationaux et les non-nationaux. Puisque ces émeutes de mai 2008 qui ont ravagé le pays pendant plusieurs semaines, fait une cinquantaine de morts, déplacé des dizaines de milliers de personnes, elles ont eu pour principal adversaire des Africains migrants en Afrique du Sud ou des gens considérés comme n'étant pas sud-africains. Donc là, on a une bascule totale. On est dans une séquence radicalement différente, mais c'est ce sur quoi je veux conclure et pour ouvrir peut-être le débat. Il est faux de dire, à mes yeux, que la période contemporaine, si tendue soit-elle, si inquiétante soit-elle, c'est l'échec de la période que je vous ai décrite. La période que je vous ai décrite est une réussite dans la capacité à construire quelque chose de nouveau et à rompre avec l'apartheid. Ensuite, on est 15 ans après maintenant. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. Et on est dans une période nouvelle. Qualitativement, l'État s'est transformé. La politique du pays a pris des allants xénophobes sur certains aspects. La situation économique, effectivement, est mauvaise, mais encore une fois, il faut se demander si on analyse à cette aune-là ou pas. Et qu'est-ce qu'elles sont aujourd'hui les catégories des gens ? Ce ne sont plus les mêmes, mais la période contemporaine n'annule pas la réussite de ce qu'a été la sortie de l'apartheid. Hein. Si on travaille en termes de séquence, c'est ce que j'ai essayé de montrer, et je pense que c'est peut-être un des atouts du travail, ça nous permet de montrer qu'il y a des choses différentes qui se passent, que la politique aussi, que ce soit du côté des gens ou du côté de l'État, elle est séquentielle. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans une nouvelle séquence qu'il faut vouloir balayer ou considérer comme non pertinent ce qui a eu lieu. Ça a eu lieu. C'était une séquence tout à fait singulière, tant du point de vue de la transformation étatique que des formes de pensée des gens, comme j'ai essayé de vous le donner à entendre. Aujourd'hui, les questions sont nouvelles, la conjoncture est nouvelle, les formes de pensée ont changé. Toutes ces difficultés-là, il va falloir les traiter. Il faut continuer les enquêtes pour bien identifier ce dont il s'agit. J'ai quelques hypothèses, mais je n'ai pas le tout de la situation contemporaine. Et pour autant, on peut rester très admiratif de ce qu'a été la sortie de l'apartheid, qui a été absolument quelque chose de singulier et porté autant par des grands hommes comme Nelson Mandela, Invictus, que par les Sud-Africains eux-mêmes, notamment les ouvriers, dans les termes que j'ai essayé de vous donner à voir. Voilà.